Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du 19 novembre 2024. Voici le sommaire. Au Mozambique, le leader de l'opposition appelle ses soutiens à observer 3 jours de deuil en mémoire des victimes des violences post-électorales. En Somalie, le chef du principal parti d'opposition, élu président du Somaliland, une région sécessionniste au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique. L'Ukraine a tiré pour la première fois des missiles de longue portée à Takems de fabrication américaine contre la Russie. Moscou promet une réponse appropriée quelques mois avant l'entrée en fonction de Donald Trump qui pourrait changer la donne.
Et la Russie, elle est sur les positions extrêmement dures, extrêmement maximalistes. Elle va exiger, elle va poser les conditions qui vont s'apparenter à la capitulation de l'Ukraine. Et je pense que Donald Trump risque de ne pas les accepter.
L'analyse de Tatiana Katueva, directrice du Centre pour l'Eurasie de l'Institut français des relations internationales, à suivre dans la partie magazine, en deuxième partie de cette édition. À 3 jours de la fin de la COP29, aucun accord n'est en vue pour mobiliser les 1 000 milliards de dollars d'aide annuelle en faveur des pays en développement. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Jean-Roger Billon et les sports présentés par Nani Talani. Mais pour commencer, voici le journal. Au Mozambique, le chef de l'opposition, Venancio Mondlane, a appelé ses partisans à 3 jours de deuil à partir de demain mercredi pour les 50 personnes qui, selon lui, ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations qui ont suivi les élections d'octobre. Jean-Roger Bion.
Venancio Mondlane a de nouveau exigé ce mardi un recomptage des voix du scrutin du 9 octobre qui, selon la commission électorale, a été remporté haut la main par le parti Frelimo au pouvoir. Ni la police ni le gouvernement n'ont confirmé le nombre de morts. Venancio, comme l'appelle la rue, exhorte ses partisans à porter du noir pendant ces 3 jours de deuil et à ne pas redescendre dans la rue au risque d'être ciblé par la police. Officiellement, l'ancien animateur de radio de 50 ans a remporté 20% des suffrages contre près de 71% au candidat du Frelimo, Daniel Chapeau, qui sera investi en janvier si le Conseil constitutionnel confirme les résultats au moins 2 semaines avant. Des groupes de défense des droits humains ont dénoncé l'usage de balles réelles contre les manifestants. L'ONG mozambicaine Centre pour la démocratie et les droits humains a comptabilisé au moins 65 morts.
Le commandant de l'armée soudanaise et dirigeant de facto du pays, Abdel Fattah al-Burhan, a rejeté ce mardi toute ingérence étrangère dans la guerre au Soudan, au lendemain du veto russe à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu. S'exprimant à l'occasion d'une conférence économique à Port-Soudan, le général Burhan a dénoncé, je cite, « des diktats destinés à nous imposer des solutions que nous n'acceptons pas ». Il a par ailleurs salué la position de soutien de la Russie. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU préparée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone, appelait les partis à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager dans un dialogue sur un cessez-le-feu national. Le général Burhan a réitéré que l'armée ne négocierait ni n'accepterait un cessez-le-feu sans un retrait total des paramilitaires, des forces de soutien rapide. Le chef du principal parti d'opposition, Abdirahman Mohamed Abdoulaye, dit Hiro, a été élu président du Somaliland, a annoncé ce mardi la commission électorale. Le Somaliland est une région sécessionniste de la Somalie, au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique. John Lyndon.
Avec 63,92% des suffrages, cet ancien diplomate âgé de 68 ans dévance largement le président sortant Moussé Biyi, qui a obtenu 34,81% et au pouvoir depuis 2017. Le leader du parti de la justice sociale, Faisal Ali Warabé, s'en sort avec 0,74% selon des résultats annoncés par le président de la commission électorale. Territoire à la pointe nord-ouest de la Somalie, le Somaliland a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'est reconnu par aucun pays. Depuis 10 mois, le Somaliland est au cœur d'une tempête diplomatique régionale après la signature d'un protocole d'accord avec l'Éthiopie voisine. Le texte n'a jamais été rendu public, mais selon les autorités du Somaliland, il prévoit l'allocation de 20 km de côte à Addis Abeba en échange d'une reconnaissance formelle. Cela a fait monter les tensions avec la Somalie qui est tournée vers l'Égypte, la grande rivale de l'Éthiopie.
Plus d'un Centrafricain sur cinq est toujours déplacé, soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger, en raison de l'insécurité après plusieurs années de conflit, selon un rapport publié ce mardi par l'UNOCHA, l'agence onusienne en charge de la coordination des affaires humanitaires. La persistance des tensions dans certaines zones de la Centrafrique oblige de surcroît environ 5000 personnes à se déplacer chaque mois à cause de l'insécurité, selon la même source. D'après l'UNOCHA, 18% des personnes déplacées internes sont hébergées dans des sites dédiés et 82% en famille d'accueil. La Centrafrique est agitée par des conflits militaro-politiques récurrents depuis plus de 30 ans et pâtit des tensions dans les pays limitrophes, le Tchad, le Soudan du Sud et le Soudan. La marine sénégalaise a intercepté hier lundi 119 migrants clandestins à bord d'une pirogue sur la route maritime de l'Europe, a-t-elle indiqué ce mardi sur les réseaux sociaux. L'opération menée au large de Difer, non loin du delta du Saloum, porte à 918 le nombre de migrants stoppés ou secourus en un mois, selon les informations fournies par la marine sur ses comptes après cinq interventions distinctes. Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la route de l'Atlantique et tente de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Des milliers de personnes sont mortes sur cette route ces dernières années.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas de lui-même, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour marquer le millième jour de la guerre russo-ukrainienne. La Russie, de son côté, dit que l'Ukraine a tiré sur son territoire des missiles américains de longue portée. Alexandrine Folognon.
Dans une intervention diffusée en vidéo devant le Parlement européen, le chef d'État ukrainien a estimé que c'est le meilleur moment pour pousser plus fort contre la Russie. Sous les applaudissements des députés, il a proclamé que l'Ukraine peut vaincre la Russie et réaffirmé son ambition de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Moscou, de son côté, a accusé l'Ukraine d'avoir tiré la nuit dernière 6 missiles américains de longue portée contre un site militaire de la région frontalière russe de Bryansk. Cette annonce intervient peu après la signature par le président russe Vladimir Poutine d'un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Plus tôt, à l'issue d'une réunion à Varsovie des chefs de la diplomatie française, allemande, italienne et espagnole, les cinq plus grands pays de l'Union européenne se sont dit prêts à assumer l'aide financière et militaire à Kiev si Washington réduit la sienne.
Le FMI a annoncé ce mardi être parvenu à un accord avec le gouvernement ukrainien concernant la sixième revue du programme d'aide en cours, ouvrant la porte au déboursement de 1,1 milliard de dollars supplémentaires. Ce nouveau déboursement, qui doit encore être validé par le conseil d'administration du fonds, porterait à 9,8 milliards de dollars le total des fonds d'ores et déjà alloués à l'Ukraine sur les 15,6 milliards de dollars prévus par le programme, dont la dernière échéance est prévue en 2027. Les performances du programme restent solides grâce aux politiques prudentes des autorités, l'ensemble des critères ayant été atteints, de même que les réformes structurelles attendues, a déclaré le chef de mission du FMI en Ukraine, Gavin Gray, cité dans un communiqué. Mais la guerre en cours continue de peser lourdement sur les finances publiques, avec un déficit attendu à 19% du PIB cette année. L'économie reste également fortement touchée, avec une croissance qui devrait ralentir en 2025. À trois jours de la clôture de la COP29 à Bakou, les négociateurs intensifient leurs efforts pour relancer les discussions sur le financement climatique qui sont dans l'impasse. Les dirigeants du G20 réunis à Rio leur ont lancé un ordre de marche en reconnaissant la nécessité de milliards de dollars pour aider les pays en développement. Nani Talani.
La principale divergence concerne le financement climatique. Les pays en développement estiment avoir besoin de 1 000 à 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2030. Les négociateurs de la COP29 à Bakou s'attendaient à ce que le G20 donne un élan plus décisif aux discussions, mais la déclaration du G20 n'a pas répondu à leurs attentes. Elle évoque la nécessité d'augmenter les financements pour les pays en développement et de renforcer les investissements privés et multilatéraux. Elle suggère aussi l'idée d'une taxe sur les super-riches et réaffirme son soutien au multilatéralisme en matière climatique. mais elle reste floue sur des questions importantes comme le montant exact du financement, la manière de répartir la contribution entre les pays développés et ceux en développement, ou l'absence de référence explicite à la réduction des énergies fossiles. Et l'issue de la COP29 va dépendre de la capacité des pays riches et en développement à s'entendre sur des engagements financiers concrets.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Jean-Roger Bion.
Au Sénégal, un audit gouvernemental a révélé en septembre que la dette et le déficit budgétaire du pays étaient beaucoup plus importants que ce qu'avait annoncé l'administration précédente. Un programme du FMI d'1,9 milliard de dollars convenu en juin 2023 est en suspens depuis lors. Les négociations avec le FMI pour relancer les décaissements pourraient durer jusqu'à la mi-2025. Le nouveau régime est dans l'attente des résultats définitifs des législatives qui pourraient lui donner les coudées franches pour son action budgétaire. Le nouveau premier ministre de l'île Maurice a annoncé un audit des finances publiques quelques jours après la victoire éclatante de sa coalition aux élections, jetant une ombre sur l'exactitude des données du gouvernement précédent. Tous les chiffres du ministre des Finances sont erronés, a déclaré Navim Ramgoolam, selon Bloomberg. Boeing lance des licenciements historiques, le groupe qui vient de subir une grève de plus de 50 jours ayant paralysé deux usines cruciales a annoncé son intention de réduire ses effectifs mondiaux de 10% dans les prochains mois. Selon le service de sécurité de l'emploi de l'État de Washington, l'avionneur américain a décidé d'y licencier 2199 personnes à partir du 20 décembre.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Nanit Talani. Salut Nanit.
Bonsoir Oufa, bonsoir à tous.
Les demi-finales de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024 se jouent ce mardi 19 novembre à Casablanca et El Jadida au Maroc.
Ce grand rendez-vous sportif concerne notamment la FAR, hôte du tournoi et ancienne championne, qui a remporté tous ses matchs de groupe et est considérée comme une prétendante sérieuse au titre. Elle joue contre TP Mazembe de la RDC qui atteint ce stade pour la première fois. Dans l'autre match, les Edo Queens du Nigeria ont terminé première, éliminant les Mamelodi Sundowns Ladies, championnes en titre. Elles affrontent FC Massar, une équipe surprise de cette édition qui devient la première formation égyptienne à atteindre les demi-finales. Les primes de cette édition ont été considérablement augmentées. Le vainqueur recevra 600 000 dollars, le finaliste 400 000 dollars et les équipes des 3e et 4e places toucheront respectivement 350 000 et 300 000 dollars. Les primes pour les 3e et 4e de groupe sont également revalorisées, respectivement à 200 000 et 150 000 dollars.
Le Soudan et le Bénin sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Le Soudan s'est qualifié après avoir décroché la deuxième place du groupe F en faisant match nul 0-0 contre l'Angola à Benghazi hier. Les Soudanais ont terminé avec 8 points, un de plus que le Niger qui a battu l'ancien champion du Ghana 2-1 à Accra. Le Bénin a tenu en échec la Libye 0-0 à Tripoli. Grâce à une meilleure différence de but et après ce nul, il a devancé le Rwanda dans le groupe D du Nigeria qui est premier du classement. Il reste 3 places à attribuer pour la CAN 2025. Les 3 matchs opposeront le Botswana à la Mauritanie, la Guinée à la Tanzanie, puis le Mozambique à la Guinée-Bissau.
Le tirage au sort préliminaire de l'UEFA pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu le 13 décembre 2024 à Zurich en Suisse.
Cet événement marquera le début du processus de qualification de l'UEFA pour la plus grande Coupe du Monde jamais organisée, le tournoi passant de 32 à 48 équipes. Le nombre de places attribuées à l'UEFA passera de 13 à 16. Le tirage sort détermine le parcours de qualification des équipes nationales de l'UEFA. La phase de groupe aura lieu de mars à novembre 2025 avec 12 groupes de 4 ou 5 équipes dont les vainqueurs se qualifieront directement pour le tournoi. Les 4 places restantes seront attribuées en mars 2026 à l'issue d'un barrage auquel participeront les 12 deuxièmes de groupe et les 4 vainqueurs de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA les mieux classés qui ne se sont pas qualifiés directement.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Ici aux États-Unis, alors que le président élu Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions, un processus soigneusement coordonné est en cours pour transférer le pouvoir de l'administration sortante à la nouvelle. Des experts partagent leur point de vue sur la manière dont le gouvernement fédéral se prépare à ce moment crucial de la démocratie américaine. Salem Solomon de VOA nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Dion.
Une passation de pouvoir pacifique, une tradition enracinée, une promesse solennelle et un élément important de la démocratie américaine. Après l'élection d'un président américain, une activité intense prend corps avant qu'il ne prête serment. 76 jours entre l'élection et l'investiture peuvent sembler être un délai suffisant, mais la transition d'une administration à l'autre est tout sauf simple, explique Michael Shurkin, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale et est aujourd'hui directeur de programmes internationaux chez Fortinov Strategies, une société de conseil aux entreprises.
Nous voulons nous assurer que le président réussisse. Donc s'ils veulent revoir la politique, nous allons les aider à le faire en leur disant ce que nous savons et en leur expliquant ce qui se passe.
Le président élu n'entrera officiellement en fonction que le 20 janvier, mais la planification doit commencer bien plus tôt, explique Valérie Smith-Boyd, du centre en charge de la transition présidentielle.
C'est une tâche extrêmement vaste et la première chose que notre organisation a faite a été d'essayer d'encourager les candidats à la présidence à commencer ce processus de planification au début de l'année électorale. Bien sûr, ils ont pour objectif principal de remporter l'élection, mais ils doivent également créer une organisation distincte qui étudie comment examiner des centaines de milliers de CV pour sélectionner exactement les bonnes personnes pour traduire leurs promesses politiques en action.
Pourvoir des postes au sein de la fonction publique n'est pas une mince affaire. De nombreux postes nécessitent une confirmation du Sénat, tandis que d'autres doivent faire l'objet d'une vérification de sécurité, ce qui crée une période délicate, explique Mme Boyd.
Nous considérons les périodes de transition comme une période de vulnérabilité pour la nation, car les personnes nommées par le pouvoir politique et les hauts dirigeants quittent leur administration. Il peut y avoir des retards dans l'arrivée des nouvelles personnes, ce qui peut bien être sûr créer des difficultés de communication ou de compréhension des règles et des responsabilités.
Les États-Unis ont une longue tradition de transition pacifique du pouvoir qui remonte à la première en 1997 lorsque George Washington a transmis la présidence à John Adams. Selon Mme Boyd, une communication claire et efficace est essentielle à la réussite d'un transfert de pouvoir.
Dans le meilleur des cas, un transfert de pouvoir pacifique ressemble à une équipe entraînante et sortante, partageant des informations et travaillant en collaboration étroite pour bien protéger le pays et le monde de risques très graves.
Churkin souligne qu'en fin de compte, le bon fonctionnement d'une démocratie est plus important que la victoire à une élection.
Pour qu'une démocratie fonctionne, tout le monde doit à un certain niveau comprendre que tant que le système fonctionne, il est en quelque sorte plus important qu'eux. La santé du système est plus importante que le fait que votre candidat ait gagné ou perdu les élections. Et je pense que c'est l'une des raisons historiques pour lesquelles la démocratie américaine a été si stable et si relativement prospère.
Alors que la nation se prépare à la prochaine investiture présidentielle, le processus de transition rappelle l'existence des personnes qui, dans l'ombre, font fonctionner la démocratie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président élu Donald Trump entrera donc en fonction en janvier 2025 avec un contrôle unifié du Congrès américain. Les républicains détiendront la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons cela dans ce reportage de Catherine Gibson. Le récit est de Gaby Dorsil.
Le nouveau leader du Sénat américain à majorité républicaine, le sénateur John Thune.
We have a mandate from the American people.
Nous avons un mandat du peuple américain, un mandat non seulement pour nettoyer le gâchis laissé par l'agenda Biden, Harris, Schumer, mais aussi pour réaliser les priorités du président.
M. Thune prend la tête du Sénat après que Mitch McConnell a occupé ce poste pendant 18 ans et il est déjà confronté à ce premier test. Le président élu Donald Trump a proposé de contourner le rôle constitutionnel du Sénat qui consiste à approuver la nomination des ministres. Écoutons encore le sénateur Thune.
Le Sénat a un rôle de conseil et de consentement dans la Constitution. Donc, nous ferons tout ce que nous pouvons pour traiter rapidement les personnes proposées et les installer à leur poste afin qu'elles puissent commencer à mettre en œuvre son programme.
Les démocrates ont perdu leur majorité et détiendront 47 sièges au moins dans le nouveau Sénat. Chuck Schumer est l'actuel chef de la majorité.
Le peuple américain nous a lancé un défi. Nous devons en tirer les leçons.
Au cours des deux premières années de son premier mandat, Donald Trump a exercé un contrôle unifié sur le gouvernement. Mais un analyste affirme que cela ne signifie pas toujours que la Maison-Blanche obtiendra ce qu'elle veut au Capitole. Casey Burgat est directeur du programme des affaires législatives à l'université George Washington dans la capitale fédérale.
Mitch McConnell a déclaré qu'il soutenait l'agenda du président, qu'il travaillerait avec eux, mais nous avons ensuite vu des nominations politiques qu'il ne donnerait pas de vote s'il pensait que le président était allé trop loin.
Les républicains ont également obtenu la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, ce qui a valu des éloges à Donald Trump. Le président élu a soutenu le président de la Chambre, Mike Johnson, pour qu'il reprenne le flambeau. Voici ce qu'a déclaré M. Johnson.
Je pense que ce sera le congrès le plus important de l'ère moderne, l'administration la plus importante de l'ère moderne, parce que, franchement, nous devons réparer presque tous les domaines de la politique publique.
Mais les républicains détiennent une majorité plus étroite à la Chambre des représentants, avec seulement une poignée de sièges de plus que les démocrates, qui ont promis de continuer à se battre. La députée démocrate Pramila Jayapal.
Le bloc progressiste du Congrès continuera à défendre férocement la classe ouvrière et les pauvres.
Les membres de la 119e législature du Congrès américain prêteront serment le 3 janvier.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La Russie a promis ce mardi une réponse appropriée à l'attaque sur son territoire menée par Kiev avec des missiles américains à Takhmelnytskyi, estimant que le conflit basculait dans une nouvelle phase et annonçant que les possibilités de recours à l'arme nucléaire étaient ainsi élargies. 1000 jours après le début du conflit, quelle perspective avec la nouvelle administration américaine et la possible utilisation des missiles à longue portée par Kiev? Eddie Sango a recueilli l'avis de Tatiana Katueva, directrice du Centre pour l'Eurasie de l'Institut français des relations internationales.
Je pense qu'il y a le scénario qui est plausible que Donald Trump fasse ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire de réduire, si ce n'est pas coupé, l'aide à l'Ukraine. À ce moment-là, l'effondrement du front ukrainien ne prendra que quelques semaines. Mais il est fort possible que Donald Trump n'y arrive pas. Ce n'est pas une question de 24 heures. Et la Russie, elle est sur les positions extrêmement dures, extrêmement maximalistes. Elle va exiger, elle va poser les conditions qui vont s'apparenter à la capitulation de l'Ukraine. Et je pense que Donald Trump risque de ne pas les accepter. Ne serait-ce que geler la ligne de contact, la ligne de front, là où elle passe actuellement, ce sera déjà un défi. Parce que Vladimir Poutine veut bien plus. Il veut les 4 régions qu'il a annexées, et c'est désormais inscrit dans la Constitution, il les veut dans les frontières administratives. Ce que Donald Trump, à mon avis, ne peut pas se permettre sans apparaître comme un leader très faible.
Adam, est-ce que les Européens ont les moyens de supplanter financièrement et militairement les États-Unis?
Malheureusement, les Européens sont bien derrière quand on regarde les volumes d'aide militaire et financière à l'Ukraine. Et je pense qu'en dépit de toutes les bonnes volontés de la nouvelle composition de la Commission européenne, ils n'arriveront pas à prendre pleinement le relais des États-Unis. Donc leur aide, si elle continue un petit peu, va encore permettre à l'Ukraine de résister pendant un moment, mais ne permettra pas de gagner et ne permettra pas de se mettre à la table de négociations dans de bonnes conditions. En fait, le grand risque pour l'Ukraine et pour l'Europe aujourd'hui, c'est que la négociation se fasse par-dessus leur tête, sans leur participation, entre les Russes et les Américains.
Pourquoi Biden autorise-t-il seulement maintenant? Est-ce que cette autorisation peut changer les cours de la guerre?
Écoutez, il a été pris maintenant parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité entre l'élection de Donald Trump et son entrée en fonction. Et c'était à peu près prévisible que ce sera une sorte de dernier cadeau, entre guillemets, de la présidence sortante de Joe Biden pour l'Ukraine. Il n'a pas remis la question sur la table avant les élections, car cela pouvait être le sujet extrêmement clivant et qui aurait pu jouer contre les démocrates. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier effort d'aider à l'Ukraine, c'est d'autoriser ses frappes en profondeur. Et par ailleurs, à mon avis, il fera tout pour débloquer le maximum de financement américain promis avant son départ. Néanmoins, ce qu'on constate depuis le début de cette guerre, c'est que l'aide occidentale et l'aide américaine en particulier arrivent avec beaucoup de retard, les décisions sont prises tardivement et les quantités ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Ukraine de s'en sortir bien dans cette guerre. Je pense que les frappes en profondeur ne changeront pas le cours de la guerre.
Tatiana Katueva, directrice du Centre pour l'Eurasie de l'Institut français des relations internationales. Intéressons-nous maintenant à une île de la RDC avec ses 310 km², l'île d'Idjoui, en plein milieu du lac Kivu, dans la province du Sud Kivu, peut vivre du tourisme. Des acteurs du développement aimeraient en tout cas voir le gouvernement congolais s'impliquer davantage pour promouvoir ce joyau qui n'a jamais connu de guerre. Reportage de notre correspondant dans la région, Zanem Nekizaidi.
Pour relier les deux grandes villes de l'est de la RDC, Goma et Bukavu, via le lac Kivu, on doit inévitablement passer le long de l'île d'Idjoui et contempler toute sa beauté. De nombreux habitants de l'île vivent de la pêche dès le bas âge. Maisha Kadogo, aujourd'hui père de 4 enfants, se souvient.
J'avais 12 ans lorsque j'ai développé la curiosité des pêcheurs. À l'époque, j'aidais au démaillage des poissons et j'ai gagné entre 500 et 1000 francs congolais. C'est ainsi que j'ai commencé moi-même à pêcher. Jusqu'aujourd'hui, je suis resté pêcheur.
Comme tous les autres insulaires, ils se sentent heureux de voir leur île faire petit à petit objet de curiosité des visiteurs.
Chaque fois qu'il y a des nouveaux visiteurs sur notre île, nous sommes très contents. Parce qu'ici à Idjoui, il n'y a aucun problème, il y a la paix et la tranquillité.
Pour attirer le plus des touristes sur l'île d'Idjoui, certains entrepreneurs locaux se sont lancés dans l'hôtellerie et l'aménagement des sites touristiques, un processus qui nécessite l'accompagnement du gouvernement de Kinshasa, selon Kavuo Kyoene, une femme entrepreneuse qui fait la promotion du tourisme sur l'île d'Idjoui.
La promotion du tourisme, c'est vraiment un très grand travail. Il faut la participation de tout le monde. Et là, nous disons merci parce que le gouvernement a déjà mis l'île d'Idjoui sur la liste des 4 zones pilotes d'expression touristique. Mais jusque-là, il n'y a pas encore des aménageurs. Nous demandons au gouvernement qu'au lieu que ça soit théorique, il faudrait que d'abord le décret sorte pour pouvoir attirer les investisseurs.
Bien que situé dans l'est de la République démocratique du Congo, Idjoui reste le rare territoire qui n'a jamais connu de guerre, le secret étant, selon l'administrateur du territoire, Maombolé Oumoustapha, le caractère de la population locale.
Nous devons dire à tout le monde que grâce à cette population et prise de la culture et de la paix, il y a un territoire où il n'y a pas coup de balle, où on ne les entend jamais. Je crois que le secret se cache dans les comportements des individus qui y vivent.
En plus de la pêche, les habitants d'Idjoui vivent également de l'agriculture avec la production de café et d'ananas, pour lesquels leur île est réputée dans la région des Grands Lacs. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24 sur notre site web voaafrique.com. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.